Paul d'Ivoire, les 5 sous de la Varède. Chapitre 1er, le testament du cousin Richard. Alors, votre réponse.
Je vous l'ai déjà dite, monsieur Bouvreuil, jamais.
Ah, réfléchissez encore, monsieur Lavarède,
c'est tout réfléchi, jamais, jamais.
Mais vous ne comprenez donc pas que vous êtes dans ma main, que si vous me poussez à bout, demain je ferai vendre vos meubles et vous serez sans abri, sans asile.
Oh, vous pouvez même ajouter sans argent.
Tandis que, si vous consentez, c'est un beau mariage, la fortune, l'indépendance.
Et vous croyez que je m'estimerais à mes propres yeux si je devenais le gendre de M. Bouvreuil, ancien agent d'affaires véreuse, ancien indicateur de la police?
Un pauvre diable journaliste comme vous êtes doit être très honoré de devenir le gendre d'un gros propriétaire, d'un riche financier, sans compter que ma fille Pénélope vous aime et que je lui donne 200 000 francs de dot, plus de formelles espérances.
Oh, mademoiselle, votre fille est hors de cause, monsieur. Ce n'est pas le mariage qui me répugne, ni la demoiselle que je refuse. C'est le beau-père.
Savez-vous que vous n'êtes pas poli, monsieur Lavarède?
Savez-vous que je m'en moque absolument, monsieur Bouvreuil? Le propriétaire avait en réserve un dernier argument. Lentement, il étala un certain nombre de papiers timbrés, les uns blancs, les autres bleus, des originaux et des copies, dont il commença l'énumération. Ici, outre vos 3 quittances de loyer en retard, voici diverses créances que j'ai rachetées afin d'avoir barre sur vous. Toutes vos dettes sont payées.
Vous êtes vraiment bien aimable, fit ironiquement le jeune homme.
Oui, mais je suis votre unique créancier. Si vous épousez Pénélope, je vous remets le dossier. Si vous refusez, je vous poursuis à outrance.
Poursuivez donc à votre aise. Il y en a pour 20 000 francs, avec les frais que je vous ferai, la somme ne tardera pas à être doublée.
Vous connaissez à merveille les choses de justice, à ce que je vois.
Il faut absolument que vous preniez une décision à très bref délai, car je dois partir incessamment pour Panama. Un syndicat d'actionnaires m'a chargé d'une enquête sur place.
Ce syndicat a singulièrement placé sa confiance, voilà tout.
Quant à ma décision, je crois vous l'avoir déjà faite connaître assez nettement pour n'avoir pas à y revenir. Donc, brisons-la, cher monsieur, nous n'avons plus rien à nous dire. Allez chez votre huissier, allez chez vos huissiers, vos avoués, chez vos avocats, allez vous repaître le papier timbré. Cette nourriture vous est favorable, à moi elle est indigeste. Bonjour.
Monsieur Bouvreuil ramassa ses paperasses, mit son chapeau, sortit et fit battre la porte. Il n'était pas content.
Par les répliques échangées ci-dessus, on connaît suffisamment M. Bouvreuil, un de ces types d'enrichis sans scrupules, à qui l'argent ne suffit pas et qui ambitionne aussi l'estime du monde. Mais Lavarède, notre héros, demande quelques lignes de biographie. Armand Lavarède naquit à Paris d'un père méridional et d'une mère bretonne. Il participait des deux races, empruntant à l'une son entrain prime sautier, à l'autre son calme réfléchi. De plus, parisien, il reçut ce don propre aux enfants de Lutèce, l'esprit des brouillards et gouailleurs, aussi difficile à étonner qu'à effrayer. Orphelin d'assez bonheur, il fut élevé par son oncle Richard, qui, s'il paya toutes les leçons et tous les maîtres nécessaires, ne s'occupa guère d'éduquer aussi le caractère de son neveu. Il avait bien trop à faire, le pauvre homme, avec son propre fils Jean Richard, cousin d'Armand Lavarède, par conséquent. Celui-là avait le tempérament tout à fait contraire. Autant Armand était bien portant, joyeux et prodigue, autant Jean était maladif, triste et économe. Jean était un peu plus âgé qu'Armand. En 1891, ils avaient le premier tout près de 40 ans, le second 35. Jean avait repris le négoce de son père, qui faisait la commission en grand, et s'y était vite enrichi.
De santé chétive et de caractère aigre, il avait même fini par prendre en grippe Paris, la France, ses amis et ses parents. Il était allé s'établir en Angleterre, dans le Devonshire. Un hasard commercial, un chargement de coton d'Amérique resté impayé, lui avait valu là, en remboursement, une fort belle habitation à la campagne. Devenu misanthrope, il était heureux d'aller vivre dans un pays où il ne connut personne et ne fut connu de quiconque. Pendant ce temps, Lavarède, audacieux, entreprenant, mais ami du changement, avait considérablement roulé sa bosse, comme dit dans son langage imagé l'expression populaire. Encore gamin, en 1870, il s'engagea dans un corps franc, fit le coup de feu à l'armée de la Loire sous les ordres du général Chanzy et commença ainsi à prendre le courage. Puis il reprit le cours de ses études, essaya de la médecine, ne tarda pas à se dégoûter des misères humaines disséquées de trop près. Il se mit à travailler pour le génie maritime, navigua quelque peu, construisit de même. Et lorsqu'il eut assez de mécanique pratique pour que cet inconnu ne l'intéressât plus, sa marotte changea. Il revint à Paris, partit comme correspondant militaire lors de la guerre turco-russe, fit la campagne, vit Plevna, poussa une pointe en Asie et au retour crut avoir trouvé son chemin de Damas. Ce fut un excellent reporter. Le sire de Vapartout le rencontra en Tunisie, en Égypte, en Serbie, en Russie, en Espagne, etc., dans tous les pays où la presse parisienne envoyait des représentants. Ayant l'intelligence vive, la décision prompte, la santé solide et une éducation complète, lui ayant laissé une teinte superficielle de toutes les connaissances modernes, Lavarède se fit journaliste. Et c'est dans cette situation que nous le trouvons au début de ce chapitre, en conférence à Saint-Amer avec M. Bouvreuil, son propriétaire. Nous l'avons assez silhouetté pour que l'on comprenne aisément que, dépensant sans compter, n'ayant aucun souci du lendemain et conservant au cœur un amour immodéré pour son indépendance, Lavarède n'était pas riche. Il gagnait certainement beaucoup d'argent, mais ne l'entassait point et vivait largement au jour le jour. Cependant, sa conversation avec M. Bouvreuil lui avait donné à réfléchir. « Cet animal-là, pensait-il non sans raison, va mettre opposition sur mes appointements au journal. Il fera saisir et vendre mes meubles, c'est certain, et je vais être très ennuyé d'ici à 24 heures. Donc, soyons parfaitement tranquilles aujourd'hui, ce sera toujours une journée de gagner. » Et de fait, ce soir-là, il s'endormit avec la quiétude d'un juge au tribunal et ne fut réveillé que le lendemain par sa respectable concierge qui avait beaucoup d'amitié pour lui. « Monsieur Armand, voici une lettre, c'est un clerc de notaire qui l'a apportée. Il savait pas au juste votre adresse et a dû vous courir après hier soir au journal, au restaurant, enfin je ne sais où. Enfin, il est arrivé ici très tard, il m'a bien recommandé de vous la remettre dès ce matin. Ah, je vous remercie, ma bonne âme Dubois, mais êtes-vous bien sûr que ce soit un clerc de notaire ? Dame, il l'a dit. J'ai bien peur que ce soit plutôt un clerc d'huissier. C'est Bouvreuil qui commence les hostilités. » Lavarède était doué d'une telle insouciance qu'il n'ouvrit pas tout de suite sa lettre. Il lut les journaux du matin, fit sa toilette, sortit pour déjeuner, et c'est seulement dans la rue qu'il se résolut à le décacheter. C'était bien une lettre de notaire, une convocation. Maître Panabert l'invitait simplement à passer d'urgence en son étude, rue de Châteaudun, pour affaire le concernant. La formule banale qui ne dit pas grand-chose. N'ayant rien de mieux à faire à cette heure-là, Armand se rendit chez le notaire après son déjeuner. Le rendez-vous était pour 2 heures. Chemin faisant, il remarqua en passant une famille anglaise qui suivait le même trottoir que lui. Il n'y avait pas à s'y méprendre, c'était bien des Anglais. L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, avait la raideur classique, les favoris bien connus et le complet à carreaux avec l'Ulster de voyage auquel tout le monde reconnaît nos voisins en route. Une vieille dame, mère ou gouvernante, avec le vilain chapeau rond au voile vert et le long caoutchouc sans forme, accompagnait une jeune fille. Non, celle-là, par exemple, était fraîche et jolie, blanche et rose, comme le sont les anglo-saxonnes lorsqu'elles se mêlent de n'être ni sèches ni revêches. Machinalement, Lavaret l'avait regardée. 100 pas plus loin, au carrefour de Châteaudun et du faubourg Montmartre, 3 voitures se croisaient venant de côtés différents. La petite Anglaise en évita bien 2, mais ne vit pas le 3e, et elle allait peut-être se faire écraser lorsqu'Armand s'élança et d'une poigne solide arrêta net le cheval au naseau. Le cocher jura, le cheval ennemi, les passants crièrent, mais la jeune personne en fut quitte pour la peur. Quoiqu'un peu pâle, elle resta fort calme. Étendant la main à Armand, elle remercia d'un vigoureux check-end à l'Anglaise. « Oh, ce n'est rien, mademoiselle, et ce n'en vaut vraiment pas la peine. » Le père et la gouvernante s'approchèrent aussi, et le bras de Lavarède fut fortement secoué 3 fois de suite. « Non, vraiment, disait-il avec une modestie tout à fait sincère, il semble que je vous ai sauvé la vie. » Cependant, vous auriez eu tout de même le temps de passer. Nos chevaux de fiacre sont bien calmes, croyez-le. Ah, vous ne m'en avez pas moins rendu service, n'est-ce pas, mon père? N'est-ce pas, Mrs. Griff? Certainement, opinèrent les 2 interpellés. Et j'ai le droit de vous en être reconnaissante. C'est que je n'ai pas beaucoup l'habitude de marcher dans vos rues de Paris. J'ai toujours un peu peur, surtout quand je cherche mon chemin. « Puis-je vous renseigner ?» demanda très poliment Lavarède. C'est le père qui prit la parole et tira une lettre de son portefeuille. « Nous allons chez un notaire. »« Tiens, moi aussi. Un notaire que nous ne connaissons pas. Parbleu, c'est comme moi. »« Qui demeure rue de Châteaudun. Ben, le mien de même. » « Maître Panaber, mais c'est bien son nom ?»« Azacharius, mais providentiel, souffrez donc que je vous conduise. » Tous arrivent, remettent leurs lettres de convocation et sont introduits dans le cabinet du notaire, sauf la gouvernante qui attend dans l'étude. « C'est donc pour la même affaire, » pensèrent Lavarède et l'Anglais. La coïncidence était bizarre entre gens qui ne se connaissaient point et qui se trouvaient appelés ensemble chez un officier ministériel dont ils ignoraient le nom la veille et le matin même. Une salutation, une présentation, pas de préliminaire. Maître Panaber est un notaire qui n'a pas le temps à perdre. Il commence aussitôt. « Monsieur Lavarède, Monsieur Mirliton, Miss Orrett, j'ai l'honneur et le regret de vous faire part du décès de l'un de mes meilleurs clients, propriétaire du château de Marsonnet dans la Côte d'Or, de 2 maisons 6 à Paris, rue Aubert et boulevard Malesherbes, enfin du domaine de Basslett Castle, dans les Devonshire. J'ai nommé le regretté M. Jean Richard. « Mon cousin !» s'écria Lavarède. « Mon voisin !» répéta l'Anglais. Les 2 hommes se regardèrent absolument interloqués, sans méfiance encore, rien qu'avec une évidente stupéfaction. Le notaire reprit impassible. « Conformément aux intentions du défunt, je vous ai convoqué ici pour entendre la lecture de son testament holographe dûment enregistré et paraphé. » Il lut rapidement les formules légales et articula un peu plus lentement. En y comprenant les maisons et propriétés ci-dessus désignées, les valeurs en rente, actions et obligations, ainsi que l'argent liquide déposé chez mon notaire, ma fortune s'élève à 4 millions environ. Comme je n'ai ni frère, ni femme, ni enfant, ni ascendant, ni descendant direct, mon unique héritier est mon cousin Armand Lavarède.
« Vous vous dites ?» interrompit Armand.
« Attendez !» répliqua le notaire. « Mais je ne l'institue mon légataire universel qu'à une condition expresse. Ce garçon ne connaît pas la valeur de l'argent. Il prodiguerait ma fortune, la jetterait à tous les vents, ainsi qu'il advint dans un voyage d'agrément que nous fîmes ensemble à Boulogne-sur-Mer. Cela lui coûta 2 000 francs, tandis que moi je dépensais 164 francs et 85 centimes. Donc, Lavarède partira de Paris avec 5 sous dans sa poche, comme le juif errant. Et de même que ce célèbre sémite, il fera le tour du monde sans avoir une autre somme à sa disposition. Il sera ainsi contraint d'être économe. Je lui donne 1 an jour pour jour pour exécuter cette clause. Nécessairement, il devra être surveillé, et je désigne pour l'accompagner un homme qui aura un intérêt personnel et considérable à remplir sa mission. C'est mon voisin de Basset Castle, Sir Murlyton, que j'institue mon légataire universel au lieu et place d'Armand Lavarède, si celui-ci n'accomplit pas rigoureusement la condition prescrite.
« Comment, moi ?» fit l'anglais. « Mais je connaissais à peine cet original, et nous étions constamment en procès. »«
Sir Murlyton, reprit imperturbablement M. Padmasmère, est un homme à cheval sur ses droits. Dès que l'ennui me prenait, j'avais un différend avec lui, soit à propos d'un mur mitoyen, soit pour la rivière qui sépare nos parcs, soit pour la récolte des arbres qui bordent nos propriétés. Cela m'émoustillait et me rattachait à la vie fastidieuse. Par conséquent, Sir Murlyton, à qui je crée un droit conditionnel à ma fortune, saura le faire valoir. Il est entendu qu'il perd tout droit à mon héritage, s'il commet un acte de trahison envers ce pauvre Lavarède. Il doit le surveiller simplement et honnêtement. Mais j'avoue que ce n'est pas un malin plaisir que je vois d'avance mon beau cousin si dépensier inéluctablement déshérité. » L'ironie de la phrase finale ne parvint même pas à dérider celui qui la prononçait. Mais cette lecture produisait des effets divers sur les auditeurs. Lavarède souriait. Peut-être ce sourire était-il jaune, mais on en pouvait distinguer la couleur. Sir Murlyton restait assis aussi calme que s'il eût été en présence d'une tranche de roast beef. Miss Aurette seule était visiblement agitée. Elle rougit d'abord, elle pâlit ensuite. Ses regards se portèrent sur les 2 hommes qui allaient faire cette chasse dont le gibier valait 4 millions. Ce fut elle qui parla la première. « Mon père, dit-elle, vous ne pouvez pas spolier ce jeune homme qui n'est pas votre ennemi et qui vient de me sauver la vie. »«
Oh, ma fille, répondit-il, les affaires sont les affaires. Il ne serait pas pratique de perdre cette fortune, car il est impossible non seulement de faire le tour du monde, mais même d'aller de Paris à Londres. » Avec 25 farthings, le 5e d'un shilling. Good business.
Si vous n'y voulez pas renoncer. Le notaire se mêla de la conversation.
Mademoiselle, fit-il, monsieur votre père renoncerait même à accepter la clause conditionnelle qui le concerne, que monsieur Lavarède ne pourrait pas pour cela être envoyé en possession de l'héritage. Il n'y a droit que sur certaines réserves expressément indiquées, et à moins que lui-même n'y renonce. « Ah, vous plaisantez !» exclama Armand. « Comment ? Voilà des millions qui tombent du ciel, vous croyez que je ne ferai rien pour les gagner ? D'abord, ce qu'exige mon cousin n'est pas déjà si difficile. Lorsqu'on a été de la Bastille à la Madeleine sans un sou vaillant, on peut bien aller en Amérique, en Chine, au diable, avec 5 sous. Vous voulez essayer ? Dit l'anglais. Soit. Je suis riche, mon carnet de chèques ne me quitte jamais. Je ne vous lâcherai pas un instant et nous verrons bien si avant 2 jours je n'ai pas gagné la partie. Eh bien, j'accepte le duel, riposta la marraine. Puis s'adressant au notaire. Monsieur, avez-vous dans l'étude un indicateur des chemins de fer ? En voici un, hein, mon cher monsieur. La marraine le consulta. Ah, il y a demain, 26 mars 1891, à 9h du matin, un train pour Bordeaux, en correspondance à Pauillac, avec un transatlantique à destination de l'Amérique. Sir Merliton, demain matin, je vous attendrai à la gare d'Orléans, conclut-il avec un aplomb écrasant. Les deux rivaux se saluèrent courtoisement pendant que le notaire rangeait le dossier, Richard, et que Miss Aurède souriait en voyant l'assurance du jeune homme. Celui-ci s'adressa à Maître Panamère. « Je dois donc être de retour dans votre étude le 25 mars 1892, avant la fermeture des bureaux. »« Au plus tard, monsieur. Parfait, j'y serai. » Et il sortit tranquillement. Chapitre 2 à cache-cache. En sortant de chez le notaire, la marraine avait allumé un cigare et marché pendant une demi-heure tout en songeant à ce qu'il allait faire. Certes, il trouvait excellente sa première idée, ce départ pour la conquête du toison extrêmement doré, souriait à son esprit aventureux. Il n'avait pas douté de la réussite, seulement à la réflexion, il se rendit compte des difficultés sans nombre qu'il allait rencontrer. Tout à coup, il était arrivé à la Madeleine, un sourire illumina son visage assombri. Il avait trouvé quelque chose. Mais quoi ? Il rebroussa chemin et vint à son journal une feuille boulevardière, Les Échos parisiens. Et là, il écrivit pour le numéro du lendemain matin une chronique où, sans désigner les noms des personnages autrement que par des pseudonymes, à demi transparents, il raconte toute l'histoire du testament. Puis il passa à la caisse, où une première péripétie l'attendait, sans trop le surprendre d'ailleurs. Un huissier, mandé par Bouvreuil, avait formé opposition sur ses appointements. « Bon, dit-il, c'est le commencement. » Il alla chez lui, et de même la concierge, Madame Dubois, lui apprit qu'un autre huissier était venu pour saisir les meubles au nom du propriétaire Bouvreuil. « Qu'est-ce que cela me fait ? » dit-il gaiement. « Demain, je pars pour l'autre monde. »« Oh, mon Dieu ! » fit la bonne Madame Dubois. « Vous n'allez pas vous tuer, mon brave monsieur Armand. Plein d'argent n'est pas mortel. »« Rassurez-vous ! » dit-il en riant. L'autre monde où je vais, c'est l'Amérique. J'y dois recueillir l'héritage d'un parent 4 fois millionnaire. Oh, vous m'avez fait une belle peur. La marraine en savait assez. Il prit une voiture et se fit conduire à la gare d'Orléans, bureau des marchandises, en grande vitesse. Il connaissait un des sous-chefs à qui, de temps en temps, il donnait des billets de théâtre. Il passa quelques instants avec lui, puis il alla inspecter un quai de débarquement où se trouvaient entassés toutes sortes de ballots, caisses, paniers, etc. Satisfait de sa visite, sans doute, il revint au bureau, écrivit une lettre d'expédition qui étonna d'abord l'employé et fit sourire le chef ami qui l'avait accompagné. « C'est bien pour Panama ?» demanda le préposé. « Oui, pour Panama, » fit la marraine, de grande vitesse. « Le colis doit partir demain matin par l'express correspondant avec le paquebot des chargeurs réunis. » Et pour plus de sûreté,
Il revint au quai, demanda à un homme d'équipe un pinceau et un seau de noir, et traça à grandes lettres sur une énorme caisse en bois le mot « Panama ». La caisse avait la forme d'un piano à queue, oblongue et vaste. Elle portait déjà d'autres inscriptions qu'il effaça, d'autres timbres d'expédition et de réception qu'il enleva. Ensuite, il remit une gratification aux employés qu'il avait aidés et donna une cordiale poignée de main au sous-chef qui ne cessait de manifester une réelle gaieté. « Je vous réponds de tout, et quand mon pari sera gagné, je vous promets un bon dîner, avec une loge pour l'opéra. » Il remonta en fiacre et revint vers le boulevard. Il n'avait pas perdu son après-midi. Comme il interrogeait son porte-monnaie, il vit qu'il lui restait quelques louis. Il fallait les dépenser le soir même ou dans la nuit. Ce n'était pas difficile. Quelques camarades invités, un dîner plantureux arrosé de bon vin, une soirée joyeuse en plaisir, un souper fin au champagne, en verre bientôt tabou. Il s'arrangea de telle sorte qu'au matin, il n'avait plus en poche qu'une pièce de 2 francs. Ben, tout juste ce qu'il me faut, 35 sous pour une voiture et 5 sous pour faire le tour du monde. La Varenne était donc porteur de 25 centimes ordonnés par le testataire lorsqu'il débarqua à 8 heures du matin à la gare d'Orléans. Il n'avait pas dormi de la nuit, c'est vrai. Mais, pensait-il, j'ai bien le temps de sommeiller en route. Et aussitôt après, il avait disparu du côté de la gare des marchandises. Peu après, parmi les voyageurs se disposant à prendre l'express, on en pouvait voir quelques-uns qui sont déjà de notre connaissance. C'était d'abord l'excellent M. Bouvreuil que sa fille Pénélope était venue conduire jusqu'à la gare en compagnie d'une bonne. Nous entrevoyons Mademoiselle Pénélope. Franchement, on ne pouvait pas reprocher à la Varenne de ne vouloir point unir sa destinée à celle de cette jeune personne. Trop grande pour être élégante, plutôt osseuse que maigre, le teint bilieux, l'expression du visage hautaine et suffisante, ce que le peuple appelle dans sa langue vigoureuse l'air puant, elle apparaissait la demoiselle du bon monsieur Bouvreuil. Elle se savait riche, en tirait une assez sotte vanité, et son orgueil avait été blessé du refus de la Varenne. C'était elle-même qui avait conseillé à son père de prendre le jeune homme par la famine. Le vieux Finot lisait attentivement un journal, Les Échos parisiens, qui venait de paraître, et dans ce journal, la chronique de la Varenne. Comme il s'y trouvait désigné sous le nom de M. Chardonneret, propriétaire de la race des vautours non apprivoisés, il parcourut le reste de l'article et lut entre les lignes. Et il passa le journal à sa fille en lui faisant part de ses réflexions. « Comment, dit-elle après avoir lu, ce monsieur qui ne veut pas de moi hériterait de 4 millions ?» S'il réussit à faire un tel voyage sans argent, tu vois bien qu'il est fou, rien que de l'entreprendre. Oh, si j'espère qu'il ne perdra point. Sois tranquille, avant peu il reviendra à Paris, penaud et repentant. Et s'il s'y trouvera traqué de telle sorte dans mon réseau de papier timbré, qu'il sera bien heureux d'accepter la paix avec ta main. Pénélope soupira. Déjà pas très belle au repos, elle était fort laide quand elle soupirait. C'est qu'il est charmant, le monstre, fit-elle en roulant vers le ciel des yeux de carpe pâmée. À ce moment, les hommes d'équipage transportaient dans le fourgon des bagages une caisse dont la forme et les proportions inusitées attirèrent tous les regards. « Tiens !» dit Bouvreuil, « on a un colis qui va faire le même voyage que moi. »
« Il va à Panama ?» demanda Pénélope.
« Oui, c'est écrit dessus. »«
Oh, ça doit être un piano, » arda la demoiselle.
« Quelque ingénieur de là-bas qui veut charmer ses loisirs, sans doute. »«
Prends bien garde aux fièvres, papa. »«
Rassure-toi, avec de l'argent, on achète une hygiène parfaite. Au surplus, j'aurai pas à y demeurer, le temps d'inspecter les chantiers, de vérifier l'utilité des dépenses et l'état des travaux. Je ne ferai que prendre des notes et je rédigerai mon rapport pour mon syndicat dans le bateau en revenant. 15 jours me suffiront largement. »
Mais avec les 2 voyages d'aller-retour et de séjour que tu prévois, cela fait une absence de 6 semaines environ.
6 semaines au plus, je te télégraphierai par le câble la date de mon arrivée là-bas et celle de mon départ.
Ce disant, Bouvreuil s'installa dans un compartiment de première classe où ne tardèrent pas à le rejoindre 2 autres personnes. Sir Merliton, escorté de sa fille, Miss Aurett, et de la gouvernante, Mrs. Griff, était arrivé à la gare à l'heure dite, avec la précision et l'exactitude des insulaires de la Grande-Bretagne. Cherchant de tous côtés, ils ne virent point la marraine. Celui-ci, nous le savons, ne pouvait être à la gare des voyageurs.
Oui, c'est ainsi qu'il aurait déjà renoncé à l'aventure, se demanda l'Anglais.
Oh, ce n'est pas probable, répondit Miss Aurett. Cependant, l'heure passait, et le moment du départ approchait, et la marraine ne paraissait toujours pas.
« Oh !» fit Sir Merliton mécontent.
« Tu dois l'accompagner.
Ben pour cela, il faudrait qu'il fût là. Mais peut-être a-t-il trouvé prudent de partir de Paris pour Bordeaux, seul avant toi. »«
Ah, c'est cela, afin que je ne puisse pas vérifier s'il a pris son ticket qui coûte plus de 25 centimes, » ajouta-t-il en riant.
Ils firent une rapide inspection des wagons déjà bondés de voyageurs. La marraine n'était pas parmi eux.
Tout à coup, Miss Aurett eut une idée.
Mon père, à Paris, dans le mouvement de la gare, tu cours le risque de le perdre de vue. Mais en allant l'attendre à Bordeaux, là, tu es sûr de ne pas le manquer. Pour embarquer dans le packet boat, il n'y a qu'un seul chemin, la planche. Il a dit que le train correspond à Pauillac avec la ligne des vapeurs. Tu devrais quand même aller jusque-là.
Oh ! Nous autres Anglais, grands voyageurs, ce n'est pas cela qui peut nous gêner beaucoup. Une simple promenade, après tout.
Oui, et si tu étais bien gentil, je t'y accompagnerai pour te donner le baiser d'adieu avant ton départ pour le tour du monde.
Mais si ce monsieur arrive tout à l'heure en retard, après le départ de l'express, comment le saurais-je?
Mrs. Griff l'a vu dans la rue hier, et aussi chez le notaire. Elle n'a qu'à rester ici et attendre. Elle le reconnaîtra bien et nous enverra une dépêche à Bordeaux-Pauillac, en gare, ou bien à l'attente des messageries maritimes.
C'est juste.
On expliqua à la gouvernante le rôle qu'elle avait à jouer et l'on prit 2 tickets.
Miss Aurett, avec la gaieté de ses 20 ans, était ravie de cette courte excursion qui ressemblait à une escapade de pensionnaire. Gravement, Mrs. Griff l'embrassa.
« Après-demain, n'est-ce pas, Miss ?
Ah, demain, peut-être. Le bateau part ce soir. On ne couche même pas à Bordeaux. » « Je reprendrai donc un train de nuit et il est plus que probable que je serai de retour demain et non après-demain. »«
Alors je reviendrai ici vous attendre. »«
Un télégramme vous préviendra. »
Le père intervint.
« Une dernière recommandation, Mrs. Dès que ma fille sera de retour, vous quitterez Paris et vous retournerez chez nous en Devonshire. »«
Je ne peux pas savoir si mon absence sera longue ou courte. »
ni même si je m'embarquerais, cela ne dépend pas de moi, mais de l'autre. Dans tous les cas, je préfère vous savoir à la maison, at home, en Angleterre. » Mrs. Griff s'inclina respectueusement. Burlington et Orette montèrent dans le seul compartiment encore disponible en partie. Ils étaient assis en face de M. Bouvreuil, qu'ils ne connaissaient point. Celui-ci avait tiré de sa poche un portefeuille énorme, le portefeuille de l'homme d'affaires, et en attendant le départ du train, il prenait quelques notes, pendant que Mademoiselle Pénélope cherchait des yeux sa bonne qui avait disparu. Bouvreuil écrivait sur une feuille blanche. Premièrement, choisir de préférence les hôtels anglais, ils sont plus confortables. Deuxièmement, éviter la société des Français, excepté celle des ingénieurs de la compagnie. Troisièmement, ne parler politique avec personne. Quatrièmement, en cas de difficulté, allez voir d'abord le consul de France. Il en était là de ses sages prévisions lorsque sa fille accourut vers le compartiment. Son visage semblait bouleversé mais rayonnant. « Papa, dit-elle, papa, en voilà une nouvelle. Qu'y a-t-il ? Il y a que M. Lavarède doit être dans le même train que toi.
Dans le train ? Je ne l'ai pas vu. »
Mais ni toi, ni personne. Il est dans la caisse.
Quelle caisse?
Ben, tu sais bien, la grande caisse à destination de Panama. Ah, c'est celle que nous croyons renfermer un piano?
Burlington et sa fille ne purent s'empêcher d'échanger un regard et une parole.
Oh, oh, monsieur Lavarède,
je te le disais bien. Fit Miss Aurett.
Bouvreuil les regarda, tout étonné d'entendre prononcer par ces étrangers le nom de Lavarède. Mais il avait le temps de les interroger là-dessus, tandis que les contrôleurs fermaient déjà les portières des compartiments et qu'il allait être séparé de Pénélope. Se penchant à la fenêtre, sa fille étant debout sur le marchepied, il demanda encore
« Mais... « comment sais-tu cela ?»« Par la bonne. Ah, bah !» Un des hommes d'équipe et son pays le centenaient dans la Côte d'Or. Ils se sont reconnus, là, et cet homme lui a raconté, en riant, qu'il avait vu un individu entrer dans la caisse au dépôt des marchandises. Le signalement est celui de M. Lavarède, impossible de s'y tromper. Un sous-chef de bureau est venu très gaiement, refermer les planches qui forment la porte et recommander à l'employé, témoin, de garder le silence. Qui s'est empressé de rompre ? Oh, avec sa payse, cela lui a semblé sans importance, mais il paraît que personne ne sait cela dans la gare.
Très bien, je le tiens. Je le ferai pincer à Bordeaux. Ces 4 millions sont flambés.
Merci, papa, et dis-lui qu'il n'a qu'à venir à la maison, que je l'autorise à me faire sa cour et que nous nous marierons dans 5 semaines à ton retour.
C'est entendu.
Miss Aurette et son père n'avaient pas perdu un mot de cette conversation, tenue du reste à voix haute. Un coup de sifflet, un signal, le train s'ébranle. Bouvreuil, toujours penché à la portière, fait un geste d'adieu. Et voilà tout notre monde parti pour Bordeaux-Pauillac. Lavarède dans sa caisse, Burlington, Orette et Bouvreuil dans leur compartiment. On sait la discrétion des Anglais qui ne parlent jamais les premiers aux gens qu'ils ne connaissent point. Ce fut donc Bouvreuil qui commença.
« Je vous demande pardon, » fit-il à ses voisins, « mais tout à l'heure vous avez paru connaître M. Lavarède dont ma fille me parlait.
Nous le connaissons, en effet, dit Sir Burlington, mais à qui ai-je l'honneur?
Bouvreuil, propriétaire financier, président du Conseil des porteurs d'actions du Panama, répondit-il en présentant sa carte.
Parfaitement, honorable gentleman. Moi, je suis Sir Merliton, et voici ma fille Aurette. Ah, ben, est-ce que c'est vous l'anglais, désigné dans l'article des Échos, sous le nom de Merliton Esquire? Je ne connais pas cet article. Ah, tenez, lisez-le. Après un rapide examen, l'anglais reprit. Oui, ce doit être moi. Et vous, alors, c'est l'oiseau de l'espèce vautour. Juste, ah, le gredin. Oh, vous n'êtes pas de ses amis, à ce que je vois. Oh non. Miss Aurette interrompit avec son gentil sourire. Pourtant, mademoiselle votre fille, tout à l'heure, est-ce qu'il n'était pas question de mariage entre elle et lui? Ma fille le désirait, mais c'est lui, le pendard, qui n'en veut pas entendre parler. Oh, pardon. Et un sourire bizarre, énigmatique, se dessina sur les lèvres à la place du sourire courtois et de bonne compagnie qu'elle esquissait d'abord. Miss Aurette avait vu le visage et la personne de mademoiselle Pénélope. Miss Aurette, dans son fort intérieur, donnait raison à ce monsieur Lavarède. Dans sa petite idée, ce pauvre garçon, qui lui avait sauvé la vie, elle n'en démordait pas, méritait mieux que cette épouse peu avenante. Mais les deux hommes continuaient de causer. « Oui, disait Bouvreuil, je vais lui faire manquer son héritage. Dès ce soir, il sera arrêté, cela doit vous satisfaire puisque vous êtes son concurrent. Et vous allez m'y aider. »
« Oh, moi, je ne puis rien contre lui. C'est une question d'honneur prévue par le testament. Je dois vérifier seulement, sans lui créer moi-même d'obstacle. »«
Que cela ne tienne, j'agirai seul et il ne dépassera pas Bordeaux. »
Après un voyage de 14 heures, les bagages sont descendus près du quai d'embarquement au bateau. Bouvreuil n'a pas perdu de vue la caisse où est son ennemi. Et en se frottant les mains, il se dirige vers le bureau de la douane. Au même instant, tout à côté de la caisse, on entend frapper sur les planches et une jolie petite voix bien douce appelle «
Monsieur Lavarède, Monsieur Lavarède !»
C'était Miss Aurette qui, d'instinct sans réflexion, prenait le parti de Lavarède contre Bouvreuil. Ce faisant, elle se mettait bien aussi contre son père, mais elle n'y songeait même pas. Son premier mouvement, le bon, le meilleur, a dit Talleyrand, la poussait à protéger le jeune contre le vieux, le beau contre le laid, le pauvre contre le riche. Ne lui reprochons pas cette générosité naturelle. Elle est si rare dans la vie. Mais elle est assez commune au bel âge de Miss Aurette. La 20e année n'est-elle pas celle des illusions? Il est certain que si la petite Anglaise avait été une personne de sens racine, si elle avait pris en pension l'habitude de compter, si on lui avait enseigné la valeur de l'argent, elle se serait dit « Ah, voilà un gaillard qui me semble assez décidé. » Si on ne l'empêche, il est capable de gagner les millions du voisin Richard. Or, ces millions doivent me revenir un jour, ou peut-être me servir de dot. Tandis qu'en laissant faire ce vilain oiseau qui a nos Bouvreuils, le jeune voyageur sera arrêté, mis en prison, condamné au moins à une amende qu'il lui faudra payer. De toute façon, il sera obligé de perdre du temps, de revenir, de s'expliquer, de plaider, de gagner de l'argent par son travail. Pendant ce temps, les jours passeront, peut-être les mois, et les beaux millions voyageront tout seuls sans lui, pour revenir bientôt au papa Merliton. Ce raisonnement logique et sensé n'entra pas dans sa virginale cervelle. Son esprit honnête se refusa même à la muette et tacite complicité du laisser-faire, et tout naturellement, comme si c'eût été son devoir, elle s'en vint toquer de ses doigts mignons sur la caisse recelleuse et répéta « Monsieur Lavarède !»
Aucun bruit, aucune réponse. Toujours à mi-voix, elle reprit.
« N'ayez pas de défiance, je vous en prie. Un danger vous menace et je viens vous en avertir. »
Alors, du dedans, surgit un organe étouffé.
« On dirait votre voix, Miss Aurette. Oui, fit-elle joyeuse.
« Allez, sortez bien vite de là. »«
Non, mademoiselle, je n'en sortirai que lorsque ma chambre à coucher sera embarquée à bord du paquebot et que le mouvement m'aura indiqué que le bateau est en marche vers Colombe. »«
Mais on ne l'embarquera même pas, ce que vous venez de dire de shocking. »« Et pourquoi donc, mademoiselle ?» demanda-t-il,
frappé du ton désespéré de la jeune Anglaise.
Parce que, monsieur, je sais pas son nom, l'oiseau de la race des vautours.
Ah, monsieur Mouvreuil,
justement, il vient d'aller chercher les douaniers, les employés, pour vous faire pincer dans la boîte.
Pincer, fichtre. Ce disant, il entr'ouvrit la porte. Miss Aurette était toute rouge.
Oh, fit-elle confuse, pincer, peut-être un mot pas joli. C'est lui qui l'a prononcé tout à l'heure. Il a dit aussi « la boîte » quand il a prévenu mon père.
« Mais que diable fait-il ici ?»«
Mon père ? Mais il vous escorte comme il le doit. »«
Non, pas monsieur, votre père, l'autre. »«
Lui, il nous a raconté qu'il allait à Panama. »«
Bien, 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 merci, miss. »
Ainsi, monsieur Marlton est du complot.
Oh non ! Papa est correct. Il s'est engagé à ne rien faire s'il s'est éloigné.
Pour laisser faire l'autre. Il ne peut l'empêcher, monsieur, mais moi...
Vous ! S'écria la Varenne en sautant sur le pavé du quai. Vous, vous êtes la Providence. C'est peut-être pour remplir ce rôle que le bon Dieu vous a fait si joli.
Pas de compliments, monsieur mon sauveur.
Et cachez-vous vite, car les voici.
Merci, mon bon ange.
Et lançant un baiser du bout des doigts, Armand se dissimula derrière des ballots et des baraques qui formaient une pile énorme non loin de là. Miss Aurette, légèrement troublée au fond, mais le visage calme, vit venir Bouvreuil avec un douanier et un employé de chemin de fer. Elle avait eu la précaution de refermer la caisse.
« Il est là !» dit Bouvreuil avec un geste qui n'était pas sans analogie avec celui que Napoléon dut faire à Marengo.
« Là-dedans ? » fit l'employé un peu ahuri. « Vous dites qu'il y a un homme ?»«
Peut-être un malfaiteur qui se cache, » ajouta Bouvreuil. « En tout cas, viande vivante... « Chère humaine, marchandise non déclarée, procès-verbal !» articula le préposé des douanes.
Les deux hommes ne savaient comment ouvrir pour vérifier le contenu. Bouvreuil non plus. Tous trois l'essayèrent vainement devant Miss Aurette, qui avait peine à garder son sérieux. Mais leurs tentatives eurent un résultat, celui de bousculer la caisse, ce qui fit aussitôt reconnaître à ces hommes accoutumés à manier des colis qu'elle était légère et partant, qu'elle devait être vide.
« Vous êtes fou, mon brave !» dit à Bouvreuil, l'employé de la gare. « Il ne peut pas y avoir un homme là-dedans. »«
Mais si, affirma-tu. « Mais non, insista l'autre. Tenez, je la retourne d'une main sans effort. »«
C'est juste, » opina le douanier.
« Pourtant, je vous atteste, comme je l'ai déclaré, qu'à Paris... »
À Paris, mes collègues se sont moqués de vous.
Enfin, il n'y a qu'à l'ouvrir, on verra bien.
Ah, je pense que nous n'avons pas d'outils ici, et puis je n'oserais déclouer les planches qu'en présence d'un de mes chefs. Je vais aller chercher les camarades pour transporter ce colis suspect au bureau.
Et moi, ajouta le préposé, je vais chercher mon brigadier, nous assisterons à l'autopsie.
« C'est cela !» fit Bouvreuil en levant les bras au ciel d'un air navré. « Et pendant ce temps-là, le brigand qui est là-dedans s'enfuira de sa caverne. Eh bien, restez en faction devant et vous verrez bien s'il sortira, dirent les deux autres en s'en allant. Bouvreuil était donc seul à faire les 20 pas dans un petit espace de terrain demeuré vide, entre des monticules de caisses, de tonneaux, de ballots, de paniers, de marchandises de toutes les provenances et de toutes les espèces venant des Amériques ou y allant. Nous disons qu'il y était seul, car Miss Aurette, un peu avant, s'était approchée de la cachette de la marraine qui lui avait fait un signe de détresse. « Je vous en supplie, Miss, dit-il à voix basse, ne restez pas là. Il ne faut pas qu'il y ait un seul témoin de ce qui va se passer. » Sans répondre, elle salua Bouvreuil et s'éloigna pour retrouver son père qui s'était dirigé, lui, vers l'appontement du bateau. « Eh bien, ma fille » demanda-t-il. « Eh bien, rien de définitif. Oh, et monsieur Lavered ?»«
Je crois qu'il va s'embarquer. »
« Alors je vais régler le prix de mon passage. »«
De notre passage, mon père. »
Sans s'émouvoir, Sir Merliton lui dit,
« Ah, vous voulez aussi venir avec moi ?»
Aussi froidement, en véritable anglaise, elle répondit,
« Oui, mon père, cette petite excursion à Panama peut être instructive. Je n'ai pas encore parcouru le centre de l'Amérique. »
Les voyages forment la jeunesse. Mais quel bagage avez-vous ?
Ma valise de promenade et mon nécessaire de toilette.
Pensez-vous que cela suffise ?
Non, mais je vais faire rapidement les achats indispensables.
All right, mais Mistress Griff.
Oh, je profiterai de mes courses pour lui télégraphier qu'elle doit retourner tout de suite et seule dans notre cottage du Devonshire.
Alors tout est prévu, c'est bien.
Ils échangèrent une poignée de main et se séparèrent, elle pour aller aux abords de la gare maritime de Pauillac, lui pour monter sur le bateau et y retenir 2 cabines. Ni l'un ni l'autre ne s'étaient un instant départis du classique flegme britannique. Ils allaient en Amérique comme ils seraient allés à Asnières, toujours avec le même calme.
Pendant que cette petite scène se passait devant la Lorraine, le transatlantique commandé par le capitaine Kassler, voici celle qui se passait devant la caisse coupable. Brusquement, la marraine, souriant, apparut aux yeux de Bouvreuil rageant.
« Ha ha, je le savais bien !» fit celui-ci d'un air triomphant.
« Vous saviez quoi ?» interrogea gracieusement le jeune homme.
« Que vous étiez là ?»
Et il désignait la boîte.
Vous vous trompez, cher monsieur, j'étais autre part.
Je sais ce que je dis. Ah, pas aussi bien que moi, croyez-le. Je me promène en attendant de faire un petit tour en Amérique, comme vous d'ailleurs. Seulement moi, c'est pour fuir vos huissiers, vos aimables huissiers.
Bouvreuil eut un air d'ironique pitié.
« Oui, vous voulez, comme vous dites, filer en Amérique, mais en voyageant d'une manière frauduleuse, à l'aide d'une machination ténébreuse. »«
Ah, le fait est, dit Armand Goyer, qu'on n'y voit pas très clair dans ces planches. Ténébreux est le mot. »«
Tandis que moi, continua le financier d'un ton suffisant, je voyage au grand jour, en payant ma place, moi, monsieur. » En retournant la cabine numéro 10, moi, monsieur, en ne m'enfouissant pas dans les profondeurs d'un inavouable colis, moi, monsieur. Et chaque fois qu'il appuyait sur ce moi, monsieur, sa voix s'enflait, prenant des inflexions majestueuses, prud'homesques et mélodramatiques. Timidement, la marraine riposta.
Oh, je fais ce que je peux, moi, monsieur.
Et d'un mouvement rapide et brusque, il ouvrit la porte de la caisse
Il fit entrer de force l'infortuné propriétaire et repoussa les planches avec vivacité. Seulement, il fit déclencher le secret de la fermeture sous un effort violent, de telle sorte que M. Bouvreuil ne pouvait plus sortir de cette boîte infernale. Il commença par crier, par appeler, mais bientôt sa voix s'estompa. Une ombre l'altérait. Est-ce que la colère l'avait étouffé, ou bien était-ce la raréfaction de l'air respirable? La marraine ne se posa même pas cette question. Prestement, il décampa au plus vite et, tout courant, s'en alla vers le pont où s'embarquaient les passagers de la Lorraine. Il était temps. 2 minutes plus tard, 4 hommes d'équipe ou portefeuille de la marine arrivaient sur le quai des marchandises, précédés du douanier de tout à l'heure. « Tiens, fut-il étonné, le vieux n'est plus là. »« Il se sent impatienté, dit l'employé, il sera parti. » Oh, il a aussi bien fait. » Et les porteurs se mirent en mesure de charger la caisse. « Oh, oh, oh !» fit l'un d'eux, « mais elle est lourde !»« C'est vrai, oui, elle pèse plus que tout à l'heure. » »« Ah, ça, il y a vraiment quelque chose là-dedans. »« Ben oui, ça remue. »« Tenez, quand on soulève d'un côté, ça penche de l'autre. » En effet, on entendait un lourd floc. « Mais ça roule !» Le douanier prêta l'oreille. « On dirait que ça gémit. »« Ah 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 ! Nous tenons le gibier !»« C'est de la contrebande, pour sûr !»« Emportons ce colis. Je vais d'abord y mettre les plombs et les sceller. On n'y touchera pas jusqu'à ce que le brigadier ait déjeuné. » Il a donné ordre qu'on l'apporte au bureau du lieutenant des douanes. On n'ouvrira que devant cet officier. Ce fut fait aussitôt. Et le pauvre président du syndicat des actionnaires, qui probablement avait perdu connaissance, put avoir le temps de se remettre. Mais nous nous occuperons plus de lui pour l'instant et retournons à bord de la Lorraine. Tout est prêt pour le départ, le paquebot est sous vapeur, la machine chauffe avec son grondement sourd de bête domptée, le panache de fumée est épais et noir, les matelots sont au cordage ou occupés à arrimer les bagages et marchandises embarquées. Tout le monde est sur le pont, les parents et les amis viennent de quitter le navire après les derniers adieux, la planche va être retirée, le second achève l'appel des voyageurs. Voyons, personne ne le manque, nous avons les cabines 8 et 9 qui viennent d'être retenues. 8 et 9, c'est pour moi et ma fille, répond Sir Merliton. Bon, vous êtes à bord, mais il y a le numéro 10 qui n'a pas encore répondu. Voyons, où est le numéro 10 ? Retenu à Paris, à l'agence maritime. Un homme se précipite sur la planche, juste au moment où le matelot de service allait l'enlever. « Le numéro 10, c'est moi, me voilà » crie-t-il tout effaré. « Quel nom ?» demande le second du navire. « Bouvreuil de Paris. Allez, oh ben c'est bien ça, en route !» Coup de sifflet, coup de cloche, la Lorraine démarre majestueusement, on est parti. Deux passagers se rencontrent nez à nez au pied de la dunette. « Oh !» dit l'un, « Monsieur Lavarraine !»« Parfaitement, Sir Merliton. Et mademoiselle votre fille est-elle retournée à Paris ?»« Non, monsieur, elle est ici, à bord !» « Enchanté, vraiment, de commencer notre voyage en sa gracieuse compagnie. Pardon, sœur, mais comment vous trouvez-vous ici ? Je sais le prix du passage, je viens d'en régler 2, et cela dépasse la somme que vous devez avoir en poche. »« Ah, assurément aussi, ne l'ai-je point payé ? Et voici mes 25 centimes encore intacts. Vous pouvez le vérifier. »
mon sévère contrôleur. Soit, mais cela ne répond pas à ma question.
C'est bien simple. J'ai la cabine numéro 10, dont le prix a été soldé par cet excellent monsieur Bouvreuil. Voyage en première classe et nourriture, tout est compris. Mais il l'a soldé pour vous ? Non, pour lui. Alors, je comprends pas. Eh bien quoi, je suis dans sa cabine. Ah, et lui ?
Ah lui, il est dans ma caisse, parbleu.
La caisse est à bord ? Non pas, elle est restée à terre. Et lui dedans ?
Certainement, lui dedans.
Sir Marleton songea quelques secondes, puis sourit à sa fille qui, s'approchant, avait entendu les derniers mots.
« Pas du tout correct, » dit-il avec gravité, « mais fort ingénieux. »
Puis il tourna les talons et alla s'accouder au bastingage. Les deux jeunes gens échangèrent quelques paroles.
« Vous avez réussi, monsieur, je vous en félicite. »
Ah, si j'ai franchi ce premier danger, miss, c'est à vous que je le dois, je ne l'oublie pas.
Oh, monsieur, nous ne sommes pas quittes encore.
Vous tenez donc bien, fit-il en souriant, à me devoir la vie.
Je tiens surtout à ne pas nuire à vos intérêts,
même aux dépens des vôtres. Miss Aurette ne répondit pas et se rapprocha de son père. Il était naturel qu'Armand y suivît cette jeune fille si peu cupide. Sa nouvelle amie, d'ailleurs, l'y autorisa d'un regard. Leur groupe réuni, elle dit
« Vous allez me trouver bien curieuse, monsieur Lavarède, mais lorsque, par hasard, elle rougit vivement en prononçant ces mots, lorsque, par hasard, la porte de votre petit appartement de voyage s'est ouverte, il y a une heure, il m'a semblé apercevoir comme un siège capitonné. Me suis-je trompé ?
Pas du tout, miss.
Oh ! Et pourquoi et comment capitonné ? Demanda Sir Marleton.
Parce que cela avait été préparé tout exprès pour faire un long voyage des Pyrénées à Paris par un fantaisiste dont j'avais raconté l'aventure dans mon journal. Je m'en suis bien souvenu. Je me suis assuré que cette caisse dont tout Paris a parlé était encore à la gare d'Orléans, et je m'en suis servi. Voilà toute l'histoire.
Je disais bien, fit l'Anglais, vous êtes un gentleman fort ingénieux.
Un sourire de la jeune fille confirma l'opinion de son père. Accoudé sur le bastingage, Sir Marleton promenait sa jumelle marine sur le passage de terre qui commençait à disparaître dans la brume du lointain. Pourtant quelque chose frappa son regard.
« Voyez donc, monsieur Lavarède, dit-il en lui passant la longue vue, ne distinguez-vous pas quelque chose qui s'agite sur le môle au bout de la jetée ?»
Armand regarda.
« Ah oui, un homme court en faisant de grands gestes. Mais il est poursuivi. On peut même se rendre compte qu'il y a des uniformes parmi ceux qui lui donnent la chasse. Ce sont des gendarmes, sans doute.
Mais qu'est-ce que cela peut être ?
Oh, sans hésiter, je pense que c'est Bouvreuil. Il n'est pas mort d'apoplexie sur le coup. Allons, tant mieux, tant mieux. »
Cependant, la Gironde fut vite descendue et aucun signal ne rappela la Lorraine. Lavarède se croyait donc tranquille pour tout le temps du voyage.